Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marco Le Ridon, mais aussi Nicolas Sendé, mais également Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Dernier temps de notre semaine consacrée à la crise du multilatéralisme, après avoir abordé lundi l'Assemblée générale des Nations unies, mardi l'Organisation mondiale du commerce et puis hier la gestion internationale de la biodiversité, intéressons-nous ce matin à la gouvernance mondiale d'Internet.
We have some very big news on TikTok.
Nous avons de grandes nouvelles concernant TikTok. TikTok évolue. Nous avons fait affaire avec Oracle et Walmart, qui est une grande entreprise américaine. La sécurité sera à 100% car ils utiliseront des clouds séparés pour stocker les informations avec une sécurité très très puissante. Conceptuellement, je pense que c'est une bonne affaire pour l'Amérique. Ils vont embaucher au moins 25 000 personnes. Ce sera une toute nouvelle société. Elle n'aura rien à voir avec un pays étranger. Elle n'aura rien à voir avec la Chine. Elle sera totalement sécurisée, ça fait partie de l'accord. Encore une fois, il y aura plein d'emplois, beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent pour notre pays, des milliards de dollars de taxes seront payés chaque année. Je pense que ce sera un accord fantastique, donc je pense que tout le monde sera heureux.
Depuis des semaines, une bataille se joue entre le réseau de vidéos TikTok détenu par un groupe chinois et le président américain, ce dernier l'accusant de récolter les données des utilisateurs américains et exigeant que l'application passe sous contrôle américain pour poursuivre ses activités aux États-Unis. Et au cœur de cette nouvelle bataille qui n'est pas terminée est la question évidemment de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, l'expression employée également par Bruno Le Maire en février dernier à l'issue d'une rencontre avec le commissaire européen Thierry Breton, est sur toutes les lèvres, de Bruxelles à Pékin, en passant par Washington et Moscou bien sûr. Pourtant, Internet a longtemps été perçu comme l'espace d'ouverture par excellence, susceptible de réunir les individus du monde entier sans l'intermédiation des États. Mais aujourd'hui, ce sont les États qui justement semblent vouloir retrouver un contrôle sur le réseau. En Europe ou aux États-Unis, on parle d'encadrer, voire de démanteler les surpuissants GAFAM au nom de la défense de la démocratie, tandis qu'en Chine ou en Russie, eh bien c'est au nom de la défense nationale que l'on s'applique à couper l'Internet local du reste de la toile. Derrière cette course à la souveraineté numérique, qui prend des formes très différentes d'un pays à l'autre, la concurrence entre deux modèles, américains et chinois, se décide. Et cette fragmentation révèle l'échec des parties prenantes à instaurer une réelle gouvernance mondiale d'Internet en dépit de la multiplication des instances techniques. Alors pourquoi la régulation internationale d'Internet a-t-elle échoué? Qu'est-ce qui distingue les conceptions américaines et chinoises du réseau? Sont-elles si diamétralement opposées? Comment l'Europe peut-elle aussi trouver sa place dans cette fragmentation? Et d'ailleurs, quel est l'état réel de cette balkanisation d'Internet? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Bernard Benabou. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et puis enseignant à Paris 1. Avec nous également Lucien Castex. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle et vous êtes représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC, qui est le registre des noms de domaine en .fr. Et vous êtes également membre du comité scientifique de l'Internet Society France. On va commencer avec cette affaire TikTok, si vous le voulez bien, dont on parle énormément aux États-Unis depuis des semaines, avec un Donald Trump qui a lancé son offensive en plein été. TikTok, donc très prisé par les ados, qui appartient à un groupe chinois. Il a exigé, Donald Trump, que l'activité auprès d'utilisateurs américains passe sous le contrôle d'une entreprise américaine. Il avait lancé au départ un ultimatum de 45 jours pour régler le problème avant d'interdire purement et simplement qu'elle soit cette application téléchargeable sur les différentes plateformes. Pendant un temps, on a pensé qu'un accord allait peut-être être trouvé, en l'occurrence la maison mère laissait entrer au capital une nouvelle entité des activités américaines de l'application, en l'occurrence Oracle et Walmart. Il l'évoquait, Donald Trump, dans le son qu'on vient d'entendre. Et visiblement, ça ne suffit pas à Donald Trump, qui en veut encore plus, qui veut prendre le contrôle total, notamment de la question des algorithmes et des technologies qui sont utilisées dans la plateforme. Mais cette affaire, en tout cas, Bernard Benamou, elle illustre parfaitement l'enjeu géostratégique qui se joue aujourd'hui autour des applications numériques. Et on est au cœur de cette souveraineté numérique dont absolument tous les pays ont compris aujourd'hui que c'était décisif d'un point de vue géostratégique.
C'est décisif d'un point de vue stratégique et effectivement au niveau mondial, le terme, puisque vous le rappeliez, le terme souveraineté numérique, il y a quelques années, lorsqu'on a créé l'Institut, était quasiment inconnu du grand public, et maintenant quasiment dans tous les journaux, quasiment tous les jours. Alors pour en revenir à TikTok, c'est un bel exemple, je dirais, de tension internationale née d'une rivalité industrielle, parce que de la même manière pour Huawei, avec effectivement la 5G, le but pour les Américains, c'est de fortifier leurs propres acteurs et de pas dépendre pour des éléments stratégiques, aussi bien effectivement sur la 5G que dans les réseaux, et effectivement dans les réseaux sociaux ici, de dépendre d'acteurs étrangers qui pourraient avoir un agenda, si le terme est juste, un agenda caché, voire surveiller la population.
C'est aussi protéger les données de ses utilisateurs.
Alors, absolument. Il y a une préoccupation de sécurité qui est tout aussi juste par rapport à TikTok qu'elle ne l'est par rapport à Huawei et par rapport à la 5G. Mais il est vrai que dans le cas, effectivement, américain, le but, c'est aussi d'éviter d'être en retard sur des technologies stratégiques. Et je précise que c'est devenu tellement inquiétant au niveau géostratégique et au niveau géopolitique que maintenant, des voix en Chine, par exemple, s'élèvent pour dire « nous devenons trop dépendants, suite aux mesures d'embargo prises par les Américains, en particulier sur les puces, nous devenons trop dépendants de la firme taïwanaise TSMC, donc le fabricant de puces, et cela pourrait justifier l'invasion de Taïwan. Donc on pourrait utiliser, prendre appui ou prendre prétexte de cette crise pour remettre en cause la province renégate de Taïwan. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux de niveau et d'importance mondiale au niveau, effectivement, militaire y compris.
Lucien Castex.
C'est très intéressant, tout à fait. L'enjeu géostratégique est central et on voit déjà là l'ensemble des questions qui se posent sur la notion de plateforme numérique. On part d'une notion qui est extrêmement floue à une notion qui va être peu à peu définie juridiquement. Et aujourd'hui, TikTok, effectivement, repose cette question au sens où elle n'est pas contrôlée par les puissances qui contrôlaient auparavant, ou qui contrôleraient, comme diraient certains peut-être, Internet. Et cette volonté de positionnement est tout à fait intéressante au sens du discours, effectivement, sur la souveraineté numérique. Comme l'a très bien dit Bernard Benhamou, on se retrouve dans un combat entre géostratégie et combat commercial, qui pose la question, en tant que telle, de la gouvernance d'Internet.
On va revenir, évidemment, sur cette question qui va nous occuper assez largement aujourd'hui, la question de la gouvernance. Mais on pourrait penser que TikTok est au fond une application tout à fait anodine, puisqu'effectivement, c'est pour les ados, pour montrer comment on chante bien et comment on danse bien. Mais il faut faire aussi attention, parce qu'il y a aussi une dimension très politique dans tout ça. D'abord, il faut remarquer que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de responsables, de chefs d'État et de gouvernement qui précisément ont ouvert un compte sur TikTok, il suffit de regarder ici en France. Que par ailleurs, il y a eu une forme de politisation de cette plateforme, du côté chinois, avec des modérateurs qui, par exemple, quand on évoquait des sujets comme le Tibet, comme le Xinjiang, avec les Ouïghours, par exemple, évidemment, évacuait assez largement ces questions-là. Par ailleurs, il y a évidemment du côté américain, et ça, Donald Trump doit l'avoir en tête, cette fameuse affaire de ce meeting où il devait y avoir 1 million de personnes et où, en réalité, il y a eu une mobilisation de certains internautes américains qui ont, via cette plateforme, organisé une mobilisation pour acheter, en réalité, des billets, enfin, réserver des places, et puis, pour ne pas y aller. Et donc, on a eu, effectivement, ces images d'un meeting où il y avait quasiment personne, enfin, en tout cas, pas le nombre espéré par Donald Trump. Donc, on voit là aussi l'outil politique que ça peut être, Bernard Benhamou. Et c'est évidemment un enjeu sur lequel, du côté des États-Unis, on est maintenant très sensible, en particulier quand on sait ce qui s'est passé en 2016.
Absolument, les conséquences. Nous vivons un après Cambridge Analytica, comme dans les années précédentes, on a vécu un après Snowden, et donc l'un était sur la surveillance, l'autre était sur la manipulation de masse. On se rend compte aujourd'hui que tous ces réseaux, puisque vous citiez TikTok, auparavant Instagram, on pensait que c'était juste pour les amateurs de photos. Et on s'est rendu compte que c'était un extraordinaire outil de conviction politique. Et de la même manière qu'au tout départ, quand Facebook s'est créé, personne n'imaginerait le pouvoir géopolitique que cela donnerait à ses détenteurs. Donc, à l'évidence aujourd'hui, pour un pays soucieux de non-ingérence de la part d'une puissance étrangère, si tant est que ce soit le cas des États-Unis, ce qui pose d'autres questions quant aux capacités d'ingérence étrangère aux États-Unis, pour nous autres Européens soucieux effectivement de processus démocratiques, de déroulement correct des élections, ça doit nous interroger évidemment. Et ça remet en fait une question dans ce que vous présentiez tout à l'heure, c'est est-ce que nous devons traiter des données sensibles de nos citoyens sur le continent européen, ce qui a même été rappelé par Thierry Thierry Breton il y a quelques jours. C'est tout récent. C'était une prise de position vraiment nouvelle, y compris donc avec des acteurs technologiques qui soient basés en Europe. Puisque quand on dit que certaines sociétés, les GAFAM, comme on les appelle, sont aussi basées en Europe, non, leur quartier général répond aux droits américains, y compris aux droits, ce qu'on appelle le Cloud Act, donc la possibilité pour les services de renseignement d'exiger des informations de ces sociétés qui sont obligées de les leur transmettre. Donc par définition, nous sommes dans un... Vous parliez de balkanisation tout à l'heure. Je pense qu'on est dans un moment de durcissement par rapport à ce que l'on imaginait être un monde sans frontières. C'était le sous-titre de votre émission de Pangée, le continent unique. Non, il y a des frontières dans le cyberespace, qu'on le veuille ou non.
On a titré de la Pangée à la balkanisation. Voilà. Donc c'est bien de l'apparition de frontières dont il est question aujourd'hui. Justement, Lucien Castex, est-ce qu'il n'y a pas une frontière là qui devrait apparaître très bientôt? En tout cas, qui pourrait apparaître quand on se penche sur le projet chinois d'Internet alternatif. Il se trouve que il y a quelques mois maintenant, il y a un an maintenant, c'était en septembre 2019, il y a des ingénieurs chinois qui se sont rendus au siège de l'Union internationale des télécommunications, qui est à Genève, pour présenter un projet de nouvel Internet censé remplacer l'architecture technologique actuelle. Le projet est baptisé New IP pour nouveau protocole Internet, et il est censé tout simplement redonner le pouvoir aux États et garantir précisément cette fameuse souveraineté numérique sur laquelle on a beaucoup insisté déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, d'abord nous présenter en quelques mots le projet, et au fond jusqu'où est-ce qu'il pourrait séduire, peut-être au-delà même évidemment des frontières chinoises, et faire apparaître demain dans le monde numérique qu'on pensait monolithique, précisément les frontières, de nouvelles frontières du numérique?
Alors c'est une question très très intéressante, car en effet on ne voit pas les frontières du cyberespace, et pourtant il y a bien des frontières, des frontières juridiques, des frontières politiques qui apparaissent avec une vigueur particulière ces derniers temps. Et quand on rebondit sur votre question initiale, c'est-à-dire sur les contenus qui vont circuler sur Internet par exemple, et ce que disait Bernard Mevenabou, c'est-à-dire par exemple l'information, les fake news, comme on a pu appeler ça, eh bien on se trouve sur la question plus large de l'appréciation des contenus qui circulent sur le réseau et de la manière dont le réseau peut ou pas être contrôlé par certains acteurs pour gérer, bloquer pour certains, filtrer ou pas ces contenus. Et d'une certaine manière, c'est une question de conception principalement, c'est-à-dire une conception, un modèle de la liberté d'expression, par exemple, qui peut être questionné entre les différents acteurs, entre les différents États, et qui est tout à fait intéressante en ce sens qu'effectivement, selon les données qui sont accessibles, selon le droit en vigueur dans un pays, parce que c'est là le nerf de la guerre, chaque pays, dans sa souveraineté nationale et dans les institutions démocratiques, en l'occurrence, par exemple, d'un pays comme la France, on va déterminer quel est le droit applicable à un certain nombre de domaines, et ce qui est légal en France peut être illégal à l'étranger ou inversement. Ce qui pose la question de la résurgence de frontières qui était évanescente peut-être dans le monde numérique. Ensuite, sur Internet en tant que tel, et sur effectivement la question d'un nouvel Internet, on passe de cette idée de village global à cette idée de fragmentation d'Internet. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est tout d'abord qu'on peut parler de fragmentation donc à plusieurs niveaux. Il y aurait la fragmentation technique, et j'y reviendrai dans un instant. Puis ensuite, on pourrait dire la fragmentation politique, la fragmentation commerciale. Et là, on est sur des enjeux politiques plus que sur des enjeux de balkanisation. On est sur des enjeux potentiellement de souveraineté, des tensions entre différents acteurs, notamment des tensions commerciales, qui se réalisent donc dans cette volonté de créer telle ou telle nouvelle plateforme ou de créer, par exemple, de bloquer tel ou tel contenu sur un territoire donné. Car au démarrage, lorsque vous reprenez Internet, effectivement, c'est l'Internet des pionniers, c'est ARPANET, donc il y avait quatre nœuds en 1969, qui a donné d'une certaine manière aujourd'hui Internet, qui est ce réseau mondial que l'on connaît et qui est basé donc sur le protocole TCP/IP, qui est un protocole donc de transfert de données sur Internet, qui a été adopté par ARPANET en 1983. Et c'est dans ce cadre-là, et encore aujourd'hui, ce réseau, cette modalité de fonctionnement ouvert est encore en place, et on a un certain nombre d'initiatives qui souhaiteraient évoluer vers un réseau qui serait supposément plus sécurisé.
Et c'est exactement justement cette initiative venue de la Chine. Je vais vous faire réagir sur cette initiative chinoise, Bernard Benamou, sur ce New IP. Mais d'abord un mot, parce que ce que dit Lucien Castex, c'est parle de l'émergence au fond de frontières. Il y a effectivement des frontières techniques, disait-il, mais aussi des frontières politiques et économiques. On y reviendra. Mais s'agissant des frontières techniques, jusqu'ici, effectivement, on a un certain nombre de pays qui coupent allègrement, qui bloquent allègrement des contenus. La Russie, l'Iran, en ce moment même la Biélorussie.
La Chine,
évidemment, elle est maître en la matière. Mais on trouve toujours des moyens, au fond, de passer d'un endroit à un autre, de créer au fond des tunnels. Il y a notamment ce qu'on appelle les VPN, les fameux VPN qui permettent justement de contourner tout cela. Mais jusqu'à quand est-ce que techniquement on va pouvoir le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où en réalité les frontières ne seront absolument plus poreuses et on sera dans une situation de fragmentation réelle, totale, avec l'impossibilité de passer d'un monde numérique à un autre?
Alors, ça a souvent été, puisque vous citez la Chine avec son protocole New IP, enfin cette tentative d'instaurer ce protocole, c'est pas une nouveauté pour eux, puisque déjà dans les années 2000, ils avaient essayé de faire ce qu'on appelait IPv9, donc un nouveau protocole IP qui s'est heurté à une opposition massive de la communauté technologique et n'a pas pu avoir lieu. Je précise que la fragmentation, la balkanisation extrême que vous décrivez ne serait pas utile ou souhaitable, y compris par des pays comme la Chine. Parce qu'ils ont besoin de commercer, ils ont besoin d'échanger avec l'ensemble des pays du monde, ne serait-ce que pour des raisons commerciales.
Ah, mais ils ont encore plus besoin de maintenir, de garantir la survie du régime.
C'est ce qu'ils font avec ce qu'ils appellent le Great Firewall of China, donc le grand pare-feu chinois qui bloque toutes sortes de contenus extérieurs. Mais de là à revenir sur les fondamentaux de l'architecture de l'Internet, le code essentiel, le code, je dirais, constitutionnel ou constitutif du réseau, ça serait prendre un vrai grand risque d'incompatibilité, d'incohérence, de non-interopérabilité avec le reste du monde. Même aujourd'hui, la Chine ne le peut pas. En revanche, essayer d'imposer un nouveau protocole pour en faire par la suite un protocole mondial, ce qu'ils ont souhaité faire à l'UIT, qui est une branche des Nations Unies, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Ils en font un objectif de politique internationale pour eux, de diplomatie.
Est-ce qu'ils peuvent y parvenir? L'UIT, vous avez raison, c'est une agence onusienne. Oui. Est-ce que, concrètement, compte tenu de la manière dont fonctionnent les choses dans cette agence, il se pourrait que l'UIT valide ce projet chinois?
Le principe de cette proposition, c'était de fédérer, je dirais, toute une série, effectivement, de pays, y compris sur les valeurs, alors ce qui peut nous faire sourire, de non-surveillance de la population, de non-interférence dans des processus électoraux étrangers. Donc quand on voit, effectivement, les présupposés de ce projet, on pourrait presque les signer. Sauf qu'effectivement, venant de la Chine avec des objectifs politiques qui sont diamétralement opposés aux nôtres, nous pouvons que nous y opposer. Est-ce que ça a une chance d'être imposé à l'échelle internationale? Je dirais, dans l'état actuel, non. Je ne dirais jamais, jamais. Pourquoi? Parce que les tensions politiques autour de l'Internet sont telles, les durcissements, les replis sont tels, qu'à un horizon difficile à prévoir, ce genre d'hypothèse, c'est-à-dire de recentraliser l'Internet, puisque c'est de ça dont il est question avec ce protocole, c'est d'avoir un protocole qui permet de recentraliser et surtout de censurer, on l'a bien compris. La volonté chinoise, c'est une volonté de contrôle politique. Donc est-ce que cela pourrait un jour séduire sous une autre forme, sous une forme un petit peu moins virulente, l'ensemble des pays, y compris des pays démocratiques ou anciennement démocratiques? Ce n'est pas du tout impossible.
Lucien Castex, est-ce que vous êtes d'accord? Au fond, ce modèle proposé par la Chine de surveillance généralisée, est-ce qu'il pourrait séduire? Alors, il y a évidemment, on imagine, tous les régimes autoritaires qui peuvent être séduits par tout cela, mais au fond, il y en a peut-être d'autres qui sont effectivement préoccupés par l'idée de récupérer leur souveraineté numérique et qui, par ailleurs, ne bénéficient pas en réalité du retour économique de ce modèle-là d'Internet qu'une chercheuse américaine qualifie de surveillance capitaliste. Exactement, Shushana Zuboff.
Tout à fait.
Au fond, il y a plein de pays qui n'ont pas intérêt économique là-dedans et donc pourraient être séduits par cette proposition chinoise.
Alors, je dirais que c'est effectivement le résultat de tensions qui sont extrêmement importantes sur Internet, ce que doit être Internet ou ce que peut Internet. En l'état actuel des discussions, la manière dont fonctionne l'UIT, qui est donc effectivement une agence des Nations Unies, en l'état actuel, c'est difficile d'imaginer que le projet soit accepté. Pour autant, et je rejoins Bernard Ménamou sur ce point, ce sont des discussions qui ont lieu et il y a un certain nombre d'acteurs qui tendent à promouvoir une volonté de recentralisation du réseau. Pour autant, lorsque l'on s'interroge plus largement, le réseau actuel, l'Internet actuel basé sur TCP/IP, l'Internet actuel interopérable, il fonctionne. Et on l'a vu à plus forte raison lors de la crise de Covid-19. C'est un Internet qui est résilient, c'est un Internet qui est stable et solide et qui reste interopérable et qui permet donc à des réseaux hétérogènes de communiquer les uns avec les autres, donc à des pays qui n'ont pas forcément le même droit, les mêmes pratiques, les mêmes usages, de communiquer d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, entre la Chine et la France, sur la base de protocoles communs.
Bernard Benamou, avant de revenir un peu en arrière et de voir au fond pourquoi cette gouvernance mondiale de l'Internet a échoué, on va essayer de refaire un petit peu d'histoire. Vous avez évoqué tout à l'heure une affaire importante, qui est l'affaire Snowden. Mm-hmm. Beaucoup d'observateurs considèrent qu'en réalité, alors il y a évidemment tous les débats qu'il y a eu autour de la transparence, indispensable en démocratie, etc. Enfin, tous ces sujets indispensables, mais en même temps qui doit avoir des limites. Enfin, il y a eu tous ces débats. Mais chez les acteurs économiques, il y a eu, visiblement, ça a été aussi un séisme très important. On a eu peut-être une nouvelle conception, une nouvelle perception de ce qu'est Internet et de l'importance d'en avoir un certain contrôle politique et économique, y compris du côté des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire Snowden et du séisme que ça constitue dans cette perception d'Internet, Bernard Benamou?
Je dirais que l'affaire Snowden a été un rappel à la réalité, c'est-à-dire que la surveillance électronique existe depuis plus de 50 ou 60 ans, auparavant avec Echelon sur le système téléphonique traditionnel, puis par la suite effectivement les différents réseaux de transfert d'informations, mais simplement on s'est rendu compte à quel point les quelques grands acteurs de l'Internet, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, était maintenant obligé de travailler justement avec ces agences comme la NSA, puisque c'était celle-là qui était citée en particulier dans la révélation Snowden, et à quel point c'était quelque chose de potentiellement toxique pour eux. Pourquoi ? Parce que, à l'évidence, un Google ou un Facebook a intérêt à surveiller ses utilisateurs, à analyser, comme disait justement Shoshana Zuboff, l'ensemble de leur comportement. Elle parle de surplus comportemental, d'analyse donc de l'ensemble de leur comportement, y compris même pour les manipuler. Mais lorsque la chose se sait au travers d'actions d'État, on remet en cause un des principes fondamentaux de l'Internet, qui est que globalement, les gens doivent avoir confiance dans le réseau. Ce qui a permis le développement de l'Internet, c'est la confiance. Or là, cette monnaie fondamentale, cette valeur fondamentale du réseau a été sévèrement atteinte par les révélations Snowden. On s'est rendu compte que les entreprises, parce qu'il n'était pas question que de surveillance politique ou de surveillance à l'international, il était aussi question de surveillance des entreprises concurrentes, d'Airbus par exemple par rapport à Boeing, etc., ou de la Commission européenne, ou des affaires, ou des commissions antitrust dans les différents pays. Par définition, on s'est rendu compte que rien n'était totalement sûr. Ce qui est vrai pour les États l'est encore plus pour les entreprises. Je précisais qu'Airbus a été une des seules à porter plainte officiellement contre les mesures de surveillance dont elle était l'objet.
Oui, parce que la confiance des usagers, c'est central pour le modèle économique de ces entreprises.
Peut-être que c'est la valeur la plus directement menacée par les affaires Snowden et plus récemment Cambridge Analytica, où on s'est rendu compte que ces fuites pouvaient créer ce qu'on appelle dans nos jargons une crise systémique de confiance, non pas vis-à-vis des usagers eux-mêmes, parce qu'il y a toujours autant d'utilisateurs de Facebook ou des grands réseaux à l'heure actuelle, mais de la part des entreprises, des annonceurs, des investisseurs, il y a effectivement un risque, et c'est effectivement ce qui s'est produit à l'issue des révélations Snowden.
Lucien Castex, on va avancer parce qu'on a encore énormément de sujets à aborder, et il va falloir qu'on parle de l'Europe, mais d'abord revenons à l'échec de la gouvernance d'Internet. Et là, il faut revenir un petit peu en arrière, rappeler qu'en 1998, l'administration américaine, à l'époque Clinton, va mettre en place une entité qui s'appelle l'ICANN, qui est une association de droit californien qui est censée gérer les noms de domaine, et que avec cette entité-là, on va commencer à essayer de mettre en place quelque chose qui ressemble à une forme de gouvernance mondiale, sauf qu'en réalité, très rapidement, on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on a échoué? Ça vous fait rire, mais alors, c'est pas évident, on aurait pu réussir.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est tout à fait juste. La gouvernance d'Internet, la question même de gouvernance d'Internet est intéressante, parce que est-ce que l'on peut dire qu'il y a une gouvernance d'Internet? Il y a plutôt des modalités de gouvernance qui s'appliquent à un certain nombre d'enjeux qui touchent à Internet et qui touchent aux technologies numériques.
Mais il y a eu une ambition,
bien sûr, de gouvernance. Il y a une ambition de gouvernance d'Internet qui existe toujours aujourd'hui. Et si on remonte effectivement historiquement, on a l'Internet qui démarre, comme je le disais tout à l'heure, avec un ARPANET. On a la création de l'ICANN en 98. On a aussi le W3C, le World Wide Web Consortium, en 94. Et on arrive, en fin de compte, assez rapidement
à avoir le rôle central, quelque part, d'Internet dans la société de l'information. Et c'est à cette occasion que le sommet mondial sur la société de l'information, qui s'est tenu à Genève en décembre 2003, va faire le constat de l'importance croissante d'Internet et de sa place centrale dans la société de l'information, et essayer de quelque part, de préparer une définition opérationnelle de la gouvernance d'Internet pour mettre en accord les différentes parties prenantes. Et dans ce cadre, et vous faisiez référence tout à l'heure, par exemple, aux Nations Unies, aux difficultés qu'on peut y trouver, c'est un peu les mêmes questions qui se posent pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui est assez essentiellement consultatif par rapport au Conseil de sécurité qui aurait des pouvoirs plus exécutifs. Ici, on va se dire, voilà, il nous faut une définition. Et le sommet mondial pour la société de l'information, qui s'est tenu à l'époque en deux phases, tout d'abord 2003, puis ensuite 2005 à Tunis, va arriver à une définition opérationnelle pour la petite histoire à travers un groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet qui avait le mandat justement de donner une définition pratique de la gouvernance d'Internet, d'identifier les grandes questions, et surtout de voir quels pouvaient être les rôles respectifs des fameuses parties prenantes que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est tout à fait central. Alors, quelle est la définition que propose ce groupe de travail et qui sera adoptée? C'est de dire que la gouvernance de l'Internet, c'est l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé et la société civile, dans le cadre de leur rôle respectif, et c'est là que c'est intéressant, de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet. C'est la reconnaissance du rôle spécifique des parties prenantes, et c'est encore cette question aujourd'hui qui interroge les États, la société civile et un certain nombre de nouveaux acteurs.
Sauf que c'est une vision que l'administration américaine va totalement rejeter en bloc et va garder donc la main mise sur ce germe de gouvernance.
Ça me rappelle à mes anciennes fonctions, puisque j'ai été Sherpa auprès de l'ambassadeur français aux Nations Unies pour ce sommet. Donc j'ai été amené à beaucoup voyager, comme le rappelait Lucien Castex à l'instant. Oui, alors je dirais, il faut rappeler les fondamentaux. Pourquoi il y a eu ce sommet? Tout simplement parce que les États, en particulier les non-alignés, comme on les appelle, étaient inquiets du pouvoir américain sur le cœur de la gouvernance des noms de domaine, c'est-à-dire la fonction, je vais pas être technique, mais une fonction qui faisait qu'en gros, les Américains avaient le doigt sur le bouton rouge.
Inquiet a raison.
Sur le fond, il s'est trouvé effectivement qu'il y avait une structuration, une architecture de la gestion de ces noms de domaine, du DNS, et au travers de IANA, pour les plus spécialistes d'entre nous, la fonction IANA, qui donnait aux Américains la possibilité d'éteindre des pans entiers de l'Internet. Eux disant, nous avons le doigt sur le bouton, mais nous n'avons jamais appuyé. Ce qui reste encore à démontrer. Mais fondamentalement, c'était une rébellion des autres pays qui disaient, nous ne pouvons pas, en termes de souveraineté, déjà à l'époque, laisser un pays décider de notre futur par rapport à Internet. Il s'est trouvé que les Américains ont participé à ce processus, lent et douloureux pour eux, puisqu'il s'agissait de se priver d'une prérogative mondiale sur le réseau, en disant, nous l'avons inventé, mais nous sommes conscients qu'on ne peut pas être les seuls à le gérer aujourd'hui. Mais je précise qu'à l'issue des travaux, nous avons rédigé ce qu'on appelait l'agenda de Tunis, donc le texte final du sommet, que les Américains ont signé bien malgré eux, j'allais dire, avec des interventions multiples des ambassadeurs, disant « Ah non, essayez quand même de faire un effort », etc. Ils l'ont signé pour après refuser à tout prix qu'il soit exécuté, qu'il soit mis en œuvre. Et donc cet agenda de Tunis, c'est un exemple d'un travail onusien long, sur lequel les Américains ont dit à l'issue de ce sommet, si vous le mettez en œuvre, nous nous retirons des Nations Unies. Et donc nous ne finançons plus, en particulier à l'UIT, la part américaine. Donc ça a été une menace absolue, et je précise, qui n'a pas pu, dans la réalité, se mettre en œuvre. Donc c'est une tentative de gouvernance mondiale qui s'est heurtée à des réalités géopolitiques strictes.
Et on peut dire qu'à ce moment-là, cette ambition originelle de mettre en place cette gouvernance internationale de l'Internet a échoué. À partir de là, on entrait dans un nouveau monde. Il faut qu'on parle évidemment de l'Europe, parce que entre justement ce capitalisme de la surveillance, pour reprendre l'expression effectivement de cette professeure de Harvard, Shoshana Zuboff, dont le livre « L'âge du capitalisme de surveillance », qui a d'ailleurs pas été traduit, fait référence.
Il va l'être dans quelques jours.
Ah bah très bonne nouvelle.
Chez Zuma, début octobre.
Très bien, donc ça c'est très bonne nouvelle. Donc entre ce modèle-là américain et puis disons le réseau chinois et la surveillance au fond comme projet autoritaire, il y a peut-être une troisième voie. En tout cas, l'Europe doit se positionner. On va parler de l'Europe, mais d'abord écoutons justement Bruno Le Maire qui évoque ce sujet.
La souveraineté numérique européenne, ça passe par un certain nombre de projets, notamment le futur cloud européen qui doit s'articuler avec nos projets de cloud souverain en France. Donc nous allons regarder dans les prochaines semaines comment est-ce que nous articulons le projet français de cloud souverain qui avance bien et qui doit pouvoir être mis en œuvre dans les prochains mois, et le projet de cloud européen. Les deux projets sont totalement complémentaires et doivent permettre de garantir la souveraineté nationale et européenne sur les données. Je redis à quel point la souveraineté sur les données, notamment les données industrielles, mais aussi les données de santé, est absolument stratégique pour notre pays et pour le continent européen.
Voilà donc Bruno Le Maire qui expliquait lors d'une conférence de presse le 7 février dernier combien la souveraineté numérique européenne est un enjeu crucial pour les années à venir. Lucien Castex, est-ce que vous pouvez essayer de nous présenter un peu la philosophie générale, la conception générale qu'a l'Europe de la souveraineté numérique et la manière, les modalités pour l'atteindre?
Large débat.
On a encore un peu de temps. Et on va détailler au fur et à mesure, vous allez voir.
Alors, en effet, c'est intéressant de voir que la souveraineté numérique revient au cœur du débat et repose cette question de conception que j'évoquais tout à l'heure. Quelle est notre conception d'Internet? Quelle est notre conception du numérique? Et cette question s'est posée au niveau européen à travers un certain nombre d'initiatives que vous connaissez. Il y a eu, bien entendu, l'approche européenne sur les données personnelles qui a donné lieu notamment au RGPD. D'une part, il y a eu un certain nombre de textes qui sont sortis, bien sûr, sur les droits et libertés fondamentaux. Et par ailleurs, sur les aspects de cybersécurité, il y a eu aussi un certain nombre de textes. On pense par exemple à la directive NIS qui encadre ces aspects et qui se réalise au niveau européen. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une vision européenne effectivement qui se développe et qui tend à se situer quelque part au centre du débat, une autre voie ou une troisième voie numérique, comme diraient certains,
Quand vous dites au centre du débat, vous pouvez préciser, est-ce que vous voulez dire un modèle, au fond, hybride, entre le modèle américain qu'on a décrit et le modèle chinois? C'est hybride, quand vous dites au milieu, c'est hybride?
Alors, je dirais, on pourrait dire hybride au sens où on a à la fois une forte place de l'État, une reconnaissance du rôle spécifique de l'État, c'est l'État... l'État français, les institutions européennes qui vont proposer un certain nombre de textes et qui ont à leur charge de protéger le citoyen, de protéger les droits et libertés fondamentaux et d'autres pouvoirs régaliens de cet ordre. Mais par ailleurs, il y a une place centrale également de la liberté d'expression et de la protection des droits et libertés fondamentaux. En témoignent les différents textes européens qui sont sortis, mais également la Convention européenne des droits de l'homme qui a une place prégnante sur ces aspects, que ce soit dans la définition même des concepts, mais aussi dans la manière dont ces concepts sont appréhendés au niveau international par une forme de d'exemple qui serait donné. Ensuite, je dirais peut-être pour finir que c'est une volonté croissante de remettre l'humain au centre du processus de décision dès lors qu'il s'agit des technologies numériques et de faire en sorte que ces technologies soient bénéfiques pour tous et soient utilisées d'une manière suffisamment inclusive et respectueuse des droits.
Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a cette bataille qui est menée depuis si longtemps pour essayer de faire payer un peu ces GAFAM qui savent parfaitement se soustraire à l'impôt. Et ça sera d'ailleurs l'un des sujets, Bernard Benamou, qui va nous occuper dans les semaines, dans les mois à venir, puisque la Commission doit dévoiler très bientôt une nouvelle législation. Ça sera d'ici la fin de l'année, normalement, si c'est pas repoussé, parce que ça a déjà été plusieurs fois repoussé. Il sera notamment question de qu'est-ce qu'on fait avec les GAFA. On a même évoqué l'hypothèse de purement et simplement les exclure du marché européen. Alors, je sais pas si on ira jusque-là, mais qu'est-ce que vous attendez, Bernard Benamou, de ce prochain texte qui devrait définir précisément les contours de ce que pourrait être la souveraineté numérique européenne de demain?
D'abord, je souhaite me réjouir du fait que, comme je le disais tout à l'heure, et sur la localisation des données, et sur le traitement de ces données, et sur l'antitrust, puisque en fait c'est les règles de la concurrence qui ont été évoquées par Thierry Breton à plusieurs reprises ces derniers temps, on ait une avancée, si j'ose dire conceptuelle, mais enfin une avancée des positions comme jamais nous ne l'avons eu ces 5 dernières années. Jamais. Et donc dire aujourd'hui, on pourrait bloquer certaines de ces sociétés si elles ne... rentre pas dans les demandes démocratiques des pays européens, c'est quelque chose qui n'avait jamais été dit. Jamais. le démantèlement, qui avait été un des sujets d'Elisabeth Warren, la candidate démocrate à la primaire des GAFAM, était quasiment un sujet tabou en France et en Europe. Donc je me réjouis qu'au niveau européen, on passe du régime des sanctions économiques, ce qu'avait fait Madame Vestager avec Google, avec son amende de 1,49 milliard de dollars. Je précise pour vos auditeurs que 1,49 milliard de dollars, à l'échelle d'un individu, c'est une somme incommensurable. À l'échelle de ces sociétés, c'est très peu de choses. Quand on sait que, par exemple, qu'Apple, durant la crise Covid, a doublé sa capitalisation de 1000 milliards à 2000 milliards de dollars. Donc, par définition, pour eux, ces sanctions économiques ne les effraient pas du tout. En revanche, s'attaquer à leur modèle économique, s'attaquer justement à la façon dont ils collectent les données, bien au-delà du RGPD, qui est déjà en soi, je dirais, une pierre législative, un monolithe législatif qui maintenant attire l'attention du monde entier. Beaucoup de pays souhaitent s'en inspirer, des États américains comme la Californie l'ont dit, etc. Mais donc, de fait, l'Europe a un rôle à jouer pour reprendre le propos de Lucien Castex, c'est cette troisième voie. C'est effectivement dire, nous ne pouvons pas nous satisfaire de la vision orwellienne des Chinois, avec la surveillance absolue du crédit social qui note chaque individu, qui va effectivement être un mode d'ingénierie sociale généralisée à un quart de l'humanité, parce que c'est quasiment ça la Chine, un quart de l'humanité. Et de l'autre côté, la vision américaine de laisser faire des sociétés, y compris donc ces GAFAM, ces grandes sociétés américaines, au risque de dérives que l'on a pu cibler avec Cambridge Analytica, donc des dérives sur les process démocratiques, sur la manipulation des opinions politiques, ce que l'on voit, et encore maintenant, encore plus.
Mais
donc,
Bernard Benhamou, pour avoir un rôle, il faut avoir des atouts dans son jeu.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité à proposer un modèle alternatif. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut avoir la capacité aussi de faire plier des acteurs, en l'occurrence des acteurs américains, ce que pour le moment, on ne parvient pas à faire. La taxe GAFAM, on l'attend toujours, au niveau européen, j'entends. Quand on oblige un certain nombre d'acteurs à verser de l'argent, je pense, en l'occurrence, vous parliez d'Apple, l'Europe avait, la Commission européenne avait demandé
14 milliards,
un peu plus de 13 milliards, voilà. un peu moins de 14, que à l'Irlande, pour précisément des arriérés d'impôts en réalité, compte tenu du fait que la Commission considérait qu'il y avait, ils avaient bénéficié d'avantages fiscaux et que tout cela n'était pas, voilà, ça a été indu. En réalité, il se trouve qu'un tribunal a cassé cette décision et que en réalité, eh bien, ce versement, pour l'instant, on considère, en tout cas du côté des juges, qu'il a été réclamé à tort. Donc, on a l'impression
que le gouvernement irlandais n'en voulait pas.
Par ailleurs, non, mais on a un peu l'impression qu'en réalité, l'Union européenne est sans armes dans ce combat.
Alors, je crois que c'est vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire, je parlais du RGPD, qui est un exemple même d'un processus lent, plus de 6 ans de maturation, qui a abouti à quelque chose qui s'impose maintenant à tous et qui effectivement constitue, même pour les sociétés aux États-Unis, constitue un obstacle majeur à des débordements par rapport aux données personnelles. Le point que vous ne citez pas, vous dites, est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Vous savez, ce que nous disaient nos interlocuteurs du département d'État, justement, lors des négociations du sommet aux Nations Unies, ils nous disaient, vous, l'Europe, vous ne savez que geindre. Vous n'avez pas d'industrie dans ces domaines, s'entend. Et c'est nous qui avons créé l'Internet, c'est nos sociétés qui le dominent. Vous n'êtes là que pour nous, entre guillemets, ralentir. Donc là où...
Il disait de façon plus désagréable que moi, alors.
Très certainement. Mais en gros, il nous faut une politique industrielle et un rebond industriel, sans quoi toutes nos volontés juridiques et politiques tomberont totalement à côté.
Et pour l'instant, Lucien Castex, on l'attend toujours, justement. On parle beaucoup de la question du déploiement de la 5G qui fait tant débat pour ce qui est de la France. On n'a pas précisément la souveraineté technologique qui nous permettrait d'avoir effectivement une alternative.
Alors sur la question effectivement des armes dont on pourrait disposer, tout à fait, il y a une difficulté à les concevoir et il y a la nécessité quelque part de reconcevoir de renforcer une politique industrielle. On le voit avec les différentes annonces qui ont été portées récemment au niveau d'une part de l'Union européenne et d'autre part le plan de relance qu'on nous a détaillé il y a encore quelques jours, qui fait du numérique un pivot de la relance. Et ce qui est intéressant,
il serait temps.
Ce qui est intéressant,
très en retard.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'une part, il y a la modernisation, la nécessité, par exemple, de transformation numérique. Mais vous avez aussi la nécessité d'éducation, que les gens aient des compétences pour aborder les métiers numériques, mais également comprendre ce que fait le numérique, comment ça fonctionne. On parlait tout à l'heure de l'affaire Snowden ou de Cambridge Analytica. On pourrait dire, c'est comprendre ce qu'est même une trace numérique. Lorsqu'on circule sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Et la compréhension de la manière dont les usages
vont potentiellement influencer tel ou tel paradigme, la manière dont, par exemple, ces traces numériques peuvent être captées, peuvent être potentiellement agrégées et utilisées par tel ou tel acteur, par telle ou telle partie prenante, est intéressante pour l'utilisateur d'Internet même.
On va regarder justement ce que fait le numérique à la production du contenu scientifique, justement. On est avec vous, Lucien Castex, et vous, Bernard Benamou, dans cette série consacrée à la gouvernance mondiale. On va donc s'intéresser à la production scientifique.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Premièrement, nous nous battons pour que toute la littérature scientifique, incluant les livres et les articles, soit en libre accès sur notre site. Deuxièmement, le site, tel qu'il fonctionne jusqu'à maintenant, ne doit pas rencontrer d'obstacles légaux. Les adversaires du piratage informatique disent qu'il est nécessaire de restreindre l'accès à l'information afin d'en couvrir les frais. Mais nous pouvons voir que ce n'est pas vrai en regardant notre site, par exemple. Nous ne restreignons l'accès à notre site à personne.
Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Alexandra Elbakian. Alors, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une femme très importante, fondatrice du site SciHub, qui met en accès libre une très grande quantité de publications universitaires à l'aide d'un ingénieux mais illégal système de contournement qui permet de consulter des dizaines de millions d'articles sans débourser le moindre centime. Son travail lui a valu le nom de Robin des Bois de la science, et en 2016, la revue Science l'avait même placée dans le top 10 des personnalités les plus influentes en science. Bref, elle incarne ce défi de l'open access que doit relever le monde de la science. Bonjour Chérifa Boukassem Zeghmouri.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 1 et membre du laboratoire Helico, équipe de recherche de Lyon, donc en sciences de l'information et de la communication. Voilà, le nom du laboratoire est donné. Durant la crise du Covid, Chérifa Boukassem Zeghmouri, on a vu se multiplier sur Internet des articles scientifiques non relus par des pairs auxquels tout le monde pouvait avoir accès en quelques clics. C'est ainsi qu'on a eu des conclusions de travaux à la scientificité, disons, assez fragiles, qui ont provoqué des débats très importants. C'est pas la peine de les rappeler, mais si tout cela a été possible, c'est parce qu'on avait des articles qui étaient diffusés sur des serveurs informatiques avant même d'être relus, d'être revus par d'autres scientifiques. C'est ce qu'on appelle des serveurs de pré-publication qui permettent de faire de la publication en temps réel. Mais au fond, tout cela est très ancien. Certains de ces serveurs remontent même aux années 90. Alors, qu'est-ce qui fait que ça pose problème maintenant, Chérifa Boukassem Zeghmouri?
Absolument, les archives ouvertes, les serveurs de préprint existent depuis plus de 20 ans. La première archive ouverte date de 1992. Et ces serveurs de préprint sont là pour accélérer la diffusion de l'information scientifique. Ils ne sont pas toujours accompagnés d'un système d'évaluation par les pairs qui permet de valider, certifier et donc légitimer les contenus scientifiques. Je soulignerai aussi que une bonne partie des contenus déposés par les chercheurs dans ces serveurs, sur ces serveurs, finissent par être soumis à des revues scientifiques, à comités de lecture. Ce qui a changé la donne avec la période du Covid, c'est qu'à des fins d'accélération de la diffusion, à des fins de diffusion plus large et plus rapide, de nombreuses plateformes, la question des plateformes a été évoquée plus tôt dans l'émission, se sont saisies de ces contenus pour justement élargir la diffusion, construire un débat médiatique. Et les acteurs de ces plateformes ne sont pas toujours des experts, ne sont pas toujours des acteurs issus du monde académique, et ils ont diffusé une information qui n'était pas validée.
Alors, comment est-ce qu'on doit faire maintenant, Chérifa Boukassem Zeghmouri? Parce que vous disiez dans un article récent très intéressant publié sur le site The Conversation que l'avenir de la science ouverte dépend de l'intégration des pratiques et principes d'openness par les instances d'évaluation officielles et institutionnelles de la recherche. Alors concrètement, comment on met en place précisément ces instances d'évaluation?
Alors, les pratiques d'ouverture chez les chercheurs existent déjà. Il y a un ancien ancrage social des plateformes numériques, des infrastructures numériques dans la recherche, dans les différents stades du cycle de la recherche, qui font qu'aujourd'hui, des communautés de chercheurs, une génération de chercheurs développent déjà des pratiques d'ouverture. Par contre, le verrou se situe du côté de l'évaluation de la recherche. Au jour d'aujourd'hui, le publish or perish, l'évaluation fondée sur l'article scientifique.
Publish or perish, c'est on publie ou on meurt, quoi.
Oui.
Non, voilà, je précise.
Exactement. C'est publier ou périr, publier des articles, dans des revues indexées avec facteur d'impact, c'est ce qui compte pour la carrière du chercheur. C'est, je dirais, presque l'unique activité du chercheur qui est prise en compte pour les promotions, l'évolution de sa carrière, son recrutement. Ce qui pose le nœud aujourd'hui est comment faire reconnaître par les différentes politiques d'évaluation de la recherche dans le monde d'autres activités du chercheur, d'autres modalités de production qui ne reposent pas forcément uniquement sur l'article. On peut parler par exemple de l'effort du chercheur à partager un jeu de données, à le documenter, à faire en sorte qu'il puisse être réutilisable par un chercheur indien, chinois ou américain à l'autre bout de la planète. Pour l'heure, ce travail, qui est un travail de recherche, n'est pas reconnu comme une contribution scientifique. L'expertise du chercheur, aujourd'hui, est limitée et à l'aune de l'article qu'il va publier dans une revue reconnue.
Et évidemment, tout ce nouveau contexte fait que, par ailleurs, cela pousse les scientifiques dans certaines directions, dans certains domaines scientifiques particuliers. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un effet retour sur la production scientifique. Mais il y a peut-être un sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est que en début de semaine, le gouvernement a présenté son projet de loi de programmation de la recherche pour la période 2021-2030. Et parmi les propositions, il y a la création d'une maison des sciences et des médias qui est destinée à lutter contre la malinformation et les fake news. Elle aurait pour rôle, je cite le projet de loi, de permettre la mise en contact rapide entre journalistes et chercheurs, favoriser l'accès des citoyens à une information scientifique fiable et accroître l'apport d'éclairage scientifique dans les débats publics sur les grands sujets actuels. Que vous inspire cette proposition, sachant que en réalité c'est quelque chose que l'on a déjà un peu essayé ailleurs. Je pense en particulier à la Grande-Bretagne qui elle aussi a créé une entité qui est un peu comparable, qui est le Science Media Center. Est-ce qu'il vous semble que c'est une piste intéressante?
Alors, je dirais que cette proposition reflète quelque chose de très important qui n'est pas toujours relayé justement dans les débats. Donc aujourd'hui, le champ de la recherche et le champ de la publication, le champ scientifique, n'est pas complètement autonome et est souvent traversé par le champ médiatique. La question de la médiatisation de l'information scientifique est de plus en plus importante. Vous parliez de frontières tout à l'heure. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'overlap entre le champ scientifique et le champ médiatique. Et la preuve en est que la circulation de l'information scientifique est de plus en plus relayée par des plateformes médiatiques. Donc, cette annonce, pour moi, reflète une nouvelle dynamique dans les modalités de production et de diffusion des savoirs, et plus particulièrement de la diffusion des savoirs vers la société. C'est aussi très symptomatique d'une dilution de l'expertise scientifique, qui est un phénomène lié à la fragmentation des contenus scientifiques, eux-mêmes liés à la présence du numérique, c'est un phénomène extrêmement corollaire du numérique, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des citoyens qui sont parfois dubitatifs vis-à-vis de la science, de ce que proposent les communautés scientifiques et la science tout court.
Mais est-ce que, pardon de vous couper, la liaison n'est pas excellente, mais on vous entend à peu près, en tout cas pour le moment. Si on reprend l'exemple de la Grande-Bretagne, qui, elle, a déjà mis en place ce type d'entité, quel bilan est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que, par exemple, sur les questions liées au Covid, dont on a vu combien elles avaient créé des polémiques ici en France, est-ce que ce genre d'entité a permis, justement, d'apaiser un peu le débat?
Alors, je dirais que le bilan est mitigé. Alors, d'abord, parce qu'il faut regarder qui sont les acteurs qui financent ces maisons. Et lorsqu'on sait qui finance derrière, on voit bien qu'il y a une forme de participation. On sait aussi que bon nombre des soi-disant experts qui travaillent sur ces sciences ne sont pas des experts, justement. Ça a été relayé récemment et les données le montrent. À côté de ça, le point plus positif, c'est qu'effectivement, ces maisons, il faut le reconnaître, sur un peu plus de 20 ans, je crois, d'existence, elles ont quand même réussi à construire des passerelles entre des communautés scientifiques et des collectifs de citoyens. Et elles ont quand même largement contribué à faire en sorte que ces deux communautés puissent soit se parler, soit co-construire des formes de savoir. Et ça, c'est quelque chose qui mérite, de mon point de vue, une attention.
Peut-être une réaction ici en plateau. Bernard Benamou, vous vouliez réagir. Réaction rapide, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission. Bien sûr. Je vous en prie, et puis ensuite Lucien Castex.
Je vous en prie. Un petit point. Les débats autour de la crise Covid, tels qu'on a pu les connaître en France, en particulier autour de l'hydroxychloroquine, etc., donc on sait qu'ils ont été très largement instrumentalisés sur les réseaux sociaux par des groupes d'intérêt, y compris des groupes d'intérêt étrangers. Ce qui nous ramène à notre sujet précédent, c'est-à-dire que tant qu'on n'agit pas sur ces plateformes qui essayent de devenir leurs propres législateurs, Facebook a créé un conseil des sages avec des hommes politiques, des chercheurs, etc., pour contourner les législations. Tant qu'on n'agit pas là-dessus, ces débats seront pris en otage, y compris des débats scientifiques ou écologiques, par exemple, par des intérêts étrangers. Si on n'agit pas sur la régulation des plateformes, ces débats seront en permanence utilisés, instrumentalisés à des fins politiques.
Donc plus de régulation. Lucien Castex.
Alors je dirais, pour conclure, que c'est plus largement une bataille pour la diversité culturelle. C'est-à-dire, est-ce que l'on veut une lingua franca sur Internet ? Une même culture, les mêmes usages. C'est cette diversité culturelle qui est la clé. Et un certain nombre de débats sont menés sur la question, en particulier le débat sur la découvrabilité des contenus, par exemple en langue française ou dans d'autres langues, et notamment des contenus minoritaires. Ensuite, le Internet de manière globale, on pourrait dire c'est une forme de pharmacon. Il y a à la fois le mal et la solution. Et ce mal et cette solution nous posent la question d'un équilibre. Est-ce que Internet est plus positif qu'il n'est négatif? Et pour moi, la réponse est délibérément qu'il est plus positif.
Get off the Internet, hein, voilà, c'est évidemment un titre choisi par Benjamin Hu, un titre de circonstance. Merci beaucoup messieurs de nous avoir éclairé ce matin sur Internet, ses évolutions, sur notre incapacité à le gouverner, sur sa fragmentation qui est en cours, sur ce que l'Europe essaye de faire en la matière. Bernard Benamou, Lucien Castex, un grand merci à tous les deux. Vous pouvez évidemment réécouter toute cette série consacrée à la gouvernance mondiale sur le site de France Culture. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous allez nous parler d'un romancier britannique, Martin Amis, qui vient de publier un nouveau livre. Pas vraiment un roman, pas vraiment un essai non plus. De quoi s'agit-il alors Brice?
Ça fait déjà un certain temps que cet écrivain britannique navigue entre le roman et l'essai. Certaines de ses fictions comportent des réflexions politico-morales sur les grandes calamités de notre époque. Ainsi, La Flèche du Temps évoquait le nazisme et la Shoah, et La Maison des Rencontres narre le destin d'anciens déportés du goulag soviétique. Mais pour parler des crimes du communisme et de l'aveuglement des intellectuels de ce côté du mal, il avait abandonné franchement les conventions du roman et s'adonnait qu'à la terreur. Il a aussi abordé le terrorisme islamiste avec un texte cinglant intitulé « Le deuxième avion ». Amis avait déjà abordé aux rives de l'autobiographie avec expérience pour faire le point sur ses rapports avec son père, Kingsley Amis, lui aussi écrivain célèbre au sein d'une autre génération puisqu'il fut la personnalité centrale du groupe qu'on a appelé les Angry Young Men, les jeunes hommes en colère des années 50. Mais cette fois, Martin Amis s'aventure du côté de ce que les anglo-saxons appellent le « friendship novel ». Une espèce de biographie romancée d'un ami qu'on cherche à faire mieux comprendre tout en se mettant pas mal en scène soi-même, ce que sous-entend le titre de ce nouveau livre qui est Inside Story, histoire intérieure. Le modèle du friendship novel en anglo-saxonie, c'est le Ravenstein de Saul Bellow, une défense et illustration romancée de son ami Alan Bloom, l'auteur mondialement célèbre de L'âme désarmée. Inside Story relève aussi du genre qu'en hexagonie on baptise autofiction. Martin Amis s'y raconte, s'y dévoile, s'y défend, s'adressant à un lecteur qu'il prétend inviter chez lui pour lui dévoiler ses trucs d'écrivain. Il médite aussi sur l'écriture, le style, la langue anglaise. Il évoque ses saints littéraires, Saül Bellow, déjà cité, Vladimir Nabokov, Philip Larkin. Mais le personnage qui domine ces évocations d'un écrivain à la recherche du temps perdu, Martin Amis vient de fêter son 71e anniversaire, c'est son ami et complice, esprit frère et rival à la fois, Christopher Hitchens.
Hitch, comme on l'appelait, et il est mort prématurément en décembre 2011 après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dit, Brice.
Mais il ne cesse de hanter le monde intellectuel anglo-saxon. Amis et Hitch se sont connus très jeunes, en 73, et ils ne se sont plus quittés. Tous deux ont fait leurs premières armes dans la rédaction du grand hebdo de la gauche intellectuelle britannique, The New Statesman. Mais autant la pensée de Hitchens est de part en part imbibée de politique, autant l'approche politique par Amis est esthétique, écrit aujourd'hui dans The New Statesman, Thomas Meaney. Si Amis méprise Trump, c'est pour sa vulgarité. Il s'exprime comme un charretier et parce que sa couleur de cheveux est ridicule. Alors on peut soupçonner les deux amis d'avoir cherché à s'impressionner mutuellement, mais ils n'ont cessé d'écrire l'un sur l'autre. Du fameux humour sarcastique qui est la marque de fabrique de Martin Amis, Hitch écrivait en 2002. Il comprend chaque note de chacun des octaves qui séparent le cri libérateur de l'hilarité du gloussement de la brute ou du ricanement du sadique. De Hitch, Martin Amis écrivait en 2010 « Christopher est un rebelle », c'est-à-dire qu'il n'a aucun respect de prime abord pour quiconque ou pour quoi que ce soit. Amis a fait de Hitch l'un des personnages centraux de son roman « La veuve enceinte ». Et dans les mémoires de Hitchens, qui s'appelle Hitch 22, qu'on devrait traduire d'ailleurs, un chapitre entier est consacré à Martin. Hitch et Amis ont non seulement hanté ensemble les parties branchées de Londres et de New York, dragué les mêmes filles, déjeuné ensemble en éclusant des vins français jusqu'à l'heure du dîner, en parlant interminablement de Orwell. Ils se sont compris mutuellement. Alors pour discuter de ce livre Inside Story, le magazine Interview a provoqué une rencontre avec un autre écrivain célèbre, membre de la même équipe, Salman Rushdie. Et leur entretien est savoureux. Provoqué par Rushdie qui lui demande comment il distingue la réalité vécue de la fiction, Amis lui répond « Je pense toujours que la différence entre un roman et la vraie vie, c'est la différence entre une chaussure de femme et son pied. La chaussure, avec son talon aiguille, sa semelle incurvée et son décolleté en pointe, ne ressemble en rien à un pied. La vie, c'est ce trotteur là-bas, tout au bout de la jambe. » Rushdie pose la bonne question. Si Christopher était encore là, que ferait-il du monde d'aujourd'hui? Et franchement, je me la pense souvent moi-même, parce que j'adore Hitchens. Oui, que dirait Hitch du Covid, de Trump, de la Chine de Xi Jinping? Presque 10 ans après sa mort, le polémiste aux trouvailles assassines du livre « Dieu n'est pas grand », à la répartie foudroyante en débat, le critique le plus doué de sa génération, demeure comme l'un des plus purs produits de ces lumières européennes qu'on prétend aujourd'hui déboulonner. Le Voltaire de la deuxième moitié du XXe siècle. Citation pour finir. « Je laisse les fidèles brûler les églises, les mosquées et les synagogues des autres fidèles parce qu'on peut toujours compter sur eux pour le faire. Et aussi, comme il est aisé de reconnaître les formes que ces revenants, les vieux ennemis de toujours, le racisme, le culte du chef, la superstition, assument lorsqu'ils réapparaissent parmi nous, souvent avec pour garde du corps de tout nouveaux apologistes. »
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette très belle chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve pas demain si, mais sur le numérique, sur Internet, à la radio, ça sera seulement lundi.
À lundi.
À lundi. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.